Tout. Il y avait cinq villes. Et alors, c'est curieux parce que dans le match ici, on prend des arbres qui sont seulement, ces arbres-là sont stériles, mais c'est pas, ils n'empêchent pas les autres de vivre. Alors que les gens dans les cinq villes, c'est des crapules, c'est des gens qui tuent les gens, c'est les gens qui, non, c'est pas simplement stérile, pas simplement qu'ils produisent rien du tout. Ça veut dire que le Machal, il est très doux parce qu'il pour ce qu'il dit sur les cinq villes en question. Et le roi dit, mais si je leur avais demandé, ben si ce qu'ils avaient, ça n'était pas ce que moi je leur ai donné, mais c'était quelque chose qui était, aurait été leur patrimoine, c'est-à-dire quelque chose qu'ils auraient fabriqué par eux-mêmes, sans que ce soit moi qui leur ai donné. Si je leur demandais on a de tellement bonnes relations, on a des bonnes relations, si je leur avais demandé d'aller couper des arbres, ils auraient été d'accord. Donc maintenant, puisque c'est quelque chose que moi je leur ai donné, à plus forte raison qu'ils vont être d'accord que je coupe des arbres. Et donc, je peux consulter là-dessus. Alors maintenant, l'idée, c'est comment ça fonctionne dans l'idée. Le territoire qui a été donné, c'est un territoire qui a été donné à Abraham Avinu. Et dans ce territoire, qui est le territoire d'Avraham Avinu, il y a ces arbres. Donc, si le territoire était un territoire patrimonial d'Abraham, je sais qu'il m'aurait permis de couper les arbres. Donc, à plus forte raison, sans lui demander son accord, je pourrais aller couper les arbres. Donc, il n'y a rien de, pourquoi je peux lui demander, mais c'est pas fondamental, mais je peux lui demander son accord. Je peux lui l'informer. Alors, vous voyez, ici, la question, c'est demander son accord. Il s'agit de, d'après le Midrash ici, Hachem fait comme si il demande l'accord d'Abraham pour aller détruire ces villes, détruire ces hommes. Nous, on a l'impression, quand on lit le texte, qu'il lui a demandé son accord. Il dit très sérieusement, est-ce que je vais faire les choses sans l'en informer? Mais informer quelqu'un, c'est pas obligatoirement demander son accord. Je t'informe que voilà, voilà, demain, il y aura une coupure de gaz. Ils ne nous demandent pas notre avis. Ils vont nous couper le gaz pendant une journée. D'accord? Là aussi, il va couper les arbres, il va détruire les villes. Et la question qu'il a, dans la question, Amechase ani me Avraham, Mechase, ça veut dire, est-ce que je vais cacher à Avraham? Il n'y a pas de connotation, je vais lui demander son accord. Alors pourquoi est-ce que le Midrash présente les choses comme si c'était lui demander son accord? C'est qu'Hachem sait très bien que s'il le dit à Abraham, Abraham, il va se dire, pourquoi est-ce qu'Hachem me le dit? C'est pas pour ma culture générale. C'est bien pour que je réagisse. Donc, d'une certaine manière, Hachem s'attend à ce que je réagisse. Comment je peux réagir quand on lui annonce, quand on va m'annoncer qu'on détruit les gens, qu'on va tuer les gens? A priori, je vais essayer de les sauver. Je vais essayer de trouver des arguments. Donc, quelque part, Hachem est en train de dire, je vais détruire ces villes, mais en fait, je veux l'accord d'Abraham. L'accord d'Abraham, il va pas, c'est pas qu'Hachem va dire je te permets de les détruire. C'est que Hachem va laisser Abraham négocier jusqu'à ce qu'Abraham reconnaisse que ben, il n'y a plus rien à négocier. Il n'a pas d'argument, il n'a plus d'argument. Il a essayé de faire valoir des arguments pour demander à Hachem de ne pas tuer tout le monde, en tout cas. D'accord? Mais il est allé de 50. Alors les 50, c'est parce que, en vérité, c'est déjà 10. Mais c'est 10 dans chacune des 5 villes. Donc c'est ça, les 50 tzadikim sur les 5 villes. Donc il y a 10 dans chaque. Donc, dès le départ, c'est clair que s'il n'y a pas 10, on commence pas. En réalité. Mais après, il dit peut-être que puisqu'on considère, puisqu'on parle de ces 5 villes et qu'on appelle ça Sdom, alors peut-être que s'il y avait dans une des villes, hein, par exemple à Sdom, il y avait dit Tsadikim, ça permettrait de sauver les 5 villes. C'est vraiment comme ça, quoi. Mais Abraham va discuter. Il va arriver à la conclusion, il n'a même pas besoin de le dire, il arrive, ça va pas, ça s'arrête quand il dit, s'il y avait 10, Hachem dit, s'il y avait 10, je pardonnerais. Mais il y a pas, Abraham, ça continue pas parce qu'il sait bien qu'il n'y a pas 10. Alors, premièrement, ça aussi, on ne sait pas. D'où est-ce qu'Abraham saurait-il qu'il n'y en a pas 10? Oui, c'est ce qui se passe à Sdom. Alors, la vérité, c'est que Abraham Avinu, il avait installé sa fameuse auberge sur la route de Sdom. Lui, il n'est pas allé à Sdom. Lot, il est allé à Sdom parce qu'il pensait qu'il allait faire mieux qu'Abraham. Abraham, il a une auberge où il reçoit les gens qui font du commerce avec les gens de Sdom, c'est-à-dire des demi-crapules. D'accord, c'est. Et donc, probablement qu'il est au courant de ce qui se passe dans ces villes. Il sait très bien ce qu'il en est. Et maintenant, la question, c'est s'il sait ce qu'il en est, pourquoi il commence à négocier? Il sait qu'il n'y en a pas 10. D'accord? Il savait dès le départ qu'il n'y en avait pas 10. Ce n'est pas une information qui lui tombe du ciel au moment de la négociation. Il sait très bien qu'il n'y en a pas 10. Donc pourquoi il commence à discuter? Bah, tu discutes. Ça veut dire que pour essayer de sauver des gens, il faut même utiliser des arguments dont tu sais qu'ils ne sont pas vraiment pertinents, quoi. C'est ça qu'on apprend. Ceci mis à part, toute l'idée même de demander qu'Hachem sauve les villes s'il y a des tzadikim dans la ville. Disons qu'il y ait des tzadikim dans la ville de Sdom. Est-ce que ça justifie qu'on sauve Sdom? On ne comprend pas du tout. Pourquoi? La solution, c'est pas de dire, ben, s'il y a les tzadikim, ben, sors les tzadikim, comme il va sortir Lot, sors les tzadikim et tue les autres. Les autres, d'accord? Ça, non. L'idée, c'est que, éventuellement, la présence des tzadikim va sauver la ville. Mais ces tzadikim qui se trouvent dans la ville, ça fait déjà un moment qu'ils sont à Sdom. C'est pas des gens qu'on a parachutés hier. Ils sont à Sdom. D'accord? Et quel que soit leur nombre, ils n'ont pas réussi à influencer Sdom pour que Sdom change sa législation pour qu'ils deviennent des gens normaux. Alors qu'est-ce qu'on attend de ces tzadikim qui jusqu'à aujourd'hui n'ont rien fait? Comment est-ce qu'ils pourraient sauver une ville alors qu'ils ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant? Donc là aussi, on est obligé de dire que puisqu'ils sont les tzadikim, peut-être qu'ils vont y arriver demain. C'est un peu tiré par les cheveux, quoi. C'est-à-dire que toute la négociation d'Abraham, elle a l'air un peu particulière, quelque part. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Je sais pas si vous en êtes d'accord. C'est un peu étonnant, non? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. On comprend pas ce que fait Abraham. Sauf à dire que quand il s'agit de sauver des gens, tous les coups sont permis, quoi. Ça veut dire, on peut dire presque des choses dont on sait très bien qu'elles ne sont pas gagnantes, mais tant que il est allé jusqu'au bout de la plaidoirie, même s'il sait qu'il ne peut pas sauver la tête des gens là-bas, il sait très bien qu'il ne pourra pas les sauver. Mais il faut se convaincre en réalité que j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de les sauver. Alors que c'est des gens qui, a priori, on va le voir par la suite, ce qu'ils souhaitent, c'est la mort d'Abraham, en fait. Ces gens-là. Dans l'histoire de la guerre contre les rois, entre les quatre et les cinq, ils vont s'allier avec tout le monde pour essayer de tuer Abraham. C'est pas, ils ont pensé au départ qu'ils l'avaient eu, parce que Lot ressemble à Abraham. Après, ils s'aperçoivent que c'est Lot qu'ils ont, mais pas Abraham. Et ils disent, mais Abraham, si on lui dit que Lot est prisonnier, il va pas rester les bras ballants. Il va venir. Il va venir faire la guerre contre nous. Mais nous, on est des armées puissantes. On va enfin pouvoir le tuer. On va enfin pouvoir en finir avec cet Abraham qui vient nous raconter ses histoires de justice et de, etc. Donc, c'est des gens qui veulent tuer Abraham. Bon, lui, c'est pas son problème. Il faut comme si c'était nécessaire, si l'idée d'Abraham, c'est si Hachem me l'a dit, comme j'ai dit avant, c'est pas pour sa culture générale, donc c'est pour que j'en fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire de cette information d'autre que d'essayer de les sauver? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et alors, il s'agit de négocier. Comment dire? On peut pas directement dire simplement, il faut les sauver. Il va dire quelque chose de très dur, Abraham. Bon, il va dire à Hachem, Khalila lecha, c'est choulin, ça veut dire tu te profanerais à faire une chose de tuer le tzaddik et le rachat en même temps. Tu vas tuer les tzaddikim? C'est d'ailleurs ce que tu as fait au Maboul. Au Maboul, t'as pas fait le tri. Et Rashi, c'est Rashi, pardon. Et là, au moment de la tour de Babel, t'as pas fait le tri non plus. D'accord? Tu as détruit tout le monde au Maboul, tu as dispersé tout le monde à la. Et donc, t'as pas fait le tri. Si maintenant, de nouveau, tu fais pas le tri, mais Khalil el-Echa, c'est rouline de faire une chose pareille. Comment au fait que le juge du monde entier pratique pas la justice, il est très dur par rapport à Hachem. Il l'accuse de tuer tout le monde de Maboul, t'as dispersé tout le monde à la tour de Babel.
Mais d'un autre côté, Avraham, il a une grâce incroyable d'avoir été informé, comme vous l'avez dit, par Hachem, parce que malheureusement, on a pu constater dans les différentes catastrophes qu'a vécues le peuple juif que Hachem n'informe pas spécialement ses tzadikim avant la catastrophe.
D'abord, je ne suis pas sûr que les tzadikim ne sont pas informés. Je ne suis pas si sûr que ça. Parce que d'après ce que les gens racontent, par exemple, il y a plein de. C'est quoi ça? Ah. Un instant. Je ne peux pas l'en empêcher. Même si c'est pas de votre goût, la modification. Ça veut dire que un artiste reste d'une certaine manière propriétaire. Il peut pas vous le prendre. Mais l'œuvre elle-même, de l'œuvre, il en reste le maître, quoi. C'est peut-être pas, bon, c'est peut-être pas la même chose. On voit pas très bien comment, par exemple, un musicien pourrait faire un changement, quoi. Mais peut-être ou un poète va changer, quoi. Enfin, pas comment il pourrait faire, mais en tout cas, chez un peintre, c'est, paraît-il, possible. Donc là, c'est comme un peu la même chose, comme Hachem il est l'artiste qui a fabriqué le terrain qu'il a donné à Abraham, et comme si d'avoir donné ce terrain, ça lui laisse quand même la maîtrise de ce qui se passe dans ce terrain. Alors ce problème-là, c'est un problème archi classique, parce qu'on a la contradiction. On dit par exemple on dit dans le Hallel, on dit que Haaretz Natan Livne Adam, HaKadosh Baruch Hu a donné la terre aux hommes. Ça, c'est ce qu'on dit c'est un Tehillim, ouais. Mais il y a un autre Tehillim où on dit l'Hachem Haaretz Umloa. La terre appartient à Hachem. Et la Gemara, elle dit, mais c'est contradictoire. D'un côté, tu dis que la terre continue d'appartenir à Hachem, et d'un autre côté, tu dis que la terre, il l'a donnée aux hommes. Eh bien, c'est bien ce qui se passe. C'est-à-dire que Hachem nous a donné la terre, mais il reste à nous en position de pouvoir modifier les termes de ce don, quoi. Quelque part, il a décidé que il a donné la terre à Abraham, et puis après, il a mis sur cette terre les lois de la Torah. Alors Abraham lui-même, il comprenait les lois, donc il a fait les choses, mais maintenant il les a mises comme une obligation. Alors, il a changé le statut. Bon, tout à coup maintenant, que tu comprennes ou que tu comprennes pas, que c'est comme ça qu'il faut faire. Tu es obligé de faire ce qu'Hachem, on pourrait dire l'ancien propriétaire, d'accord, qui est quand même toujours propriétaire, et t'impose. Oui, peut-être, mais même, c'est quand même un petit peu différent. Et donc ici, donc la question de Amchasé Anim et Avram, est-ce que je vais cacher à Avram ce que je fais? Elle prend une autre couleur en quelque sorte. D'accord? Ça veut dire, je vais faire quelque chose sur le territoire qui appartient à Avram. Je le lui ai donné, ce territoire. Mais maintenant, je pense que dans ce territoire-là, il y a des choses qu'il faut enlever. Il faut les détruire.
Est-ce que c'est pas le fait c'est pas ça l'alliance en fait. Voilà, donc chacun c'est peut-être pas le rôle de Abraham.
A priori, quand quelque chose se passe chez vous, vous êtes responsable, non? Si quelqu'un vous avait vendu un appartement, une fois qu'il est vendu, il est vendu. Il est plus responsable de... Pardon? Bon, alors ça dépend si... Bon, s'il s'avère qu'il y avait au départ, il y a des lois, là, les 10 ans, etc. Bon, ça c'est tout à fait... Dans la conception de la chose, il y avait un problème. Mais autrement... C'est vous qui allez faire les travaux, quoi. Vous faites les travaux que vous jugez nécessaires de faire. On ne peut pas venir chez vous et dire, le papier peint ne me plaît pas, tu vas changer le papier peint. Parce qu'elle n'a jamais... Ah oui, donc, oui, ça c'est vrai. Alors, ce qui se passe, effectivement, c'est juste. Par exemple, c'est pas obligé, la ville de Paris peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que le responsable militaire de la ville de Paris, il peut mobiliser, il peut confisquer, il peut changer les choses. Lui, alors, on est dans un pays où effectivement les choses sont à toi, mais bon, qu'est-ce qu'il est, le commandant de la place de Paris ou je sais pas quoi, lui, il a les moyens, ou un préfet de Paris ou je sais pas, il a le droit de changer ces choses, de changer les lois de Paris. Et il peut décider de mobiliser, je sais pas, des appartements, des maisons, etc. Donc, il y a des situations supérieures, quoi, quelque part, mais parce qu'il comprend des choses qu'a priori le commun des mortels ne comprend pas ou il n'est pas au courant. Tandis qu'Abraham, a priori, il est au courant, il sait bien qui est Sodome. Mais bon, il peut pas. Abraham, il n'a pas décidé de faire la guerre contre Sodome. Quand il va faire la guerre, c'est seulement parce qu'il veut délivrer Lot. Mais lui, il ne se mêle pas de la guerre. Et donc, Hachem est allé, Benim Lachbo, ça veut dire, a priori, il a pris conseil, il a pris l'avis d'Abraham. Nimlach, ça veut dire en général, bon, il a pris conseil, il n'a pas décidé sans l'avoir consulté. Donc, on a un machal, et on a donc une parabole, et on a la traduction de la parabole. Et comme toujours, on pourrait se demander pourquoi une parabole alors qu'on aurait pu dire tout ça directement, non? Pourquoi il faut passer par une parabole pour dire cela? Pourquoi passer par le biais d'un roi de chair et de sang avec, etc. Pourquoi présenter les choses? Qu'est-ce qu'on a dit de plus qu'on a pu dire parce qu'on a pris une parabole et qu'on n'aurait pas dit directement? D'ordinaire, quand on prend dans la parabole un roi de chair et de sang à la place d'Akadosh Baruch Hu, c'est parce que on dit des choses qu'on n'ose pas dire directement sur Hachem, alors on va les dire sur le roi, mais bon, alors, il y a une tâche pour nous de comprendre qu'en vérité, ça concerne Hachem, mais enfin, on ne peut pas le dire clairement, on n'a pas trouvé la formule, etc. Mais dans l'idée, il faut comprendre que ça concerne Hachem. Mais ici, quel est le problème? Quelle est la différence entre ce que Amchasé a animé Abraham dans cette histoire et puis le Machal? Qu'est-ce que le Machal, ici c'est marqué Kach Amar Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a dit la même chose que ce qu'a dit le roi. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans cette parabole? Il n'y a pas. C'est peut-être. Et pourquoi ça n'y est pas?
Bah, je pense qu'on ne veut pas dire explicitement que on veut préserver l'idée que les hommes ont à finir la création divine. Donc il faut leur laisser croire qu'ils ont une action à mener et que voilà, l'homme est le comment aide Hachem à dans son projet divin.
Mais est-ce que la parabole dit exactement le contraire? Elle dit que c'est Hachem lui-même, c'est le roi qui va aller détruire couper les arbres.
C'est pour ça que je disais, on veut faire croire.
Mais on veut faire croire que c'est les hommes. Mais ici, le Midrash, il dit le contraire. Il dit que c'est Hachem qui.
Oui, mais l'homme, il essaye quand même de négocier avec Hachem,
Oui, mais là-dedans,
Abraham.
il n'y a rien du tout. Le Midrash, pour l'instant, il n'a pas parlé du tout de la négociation. Tout le Midrash parle du fait que, si vous voulez le traduire comme ça, que Hachem veut. Il se demande, est-ce qu'Abraham va accepter ce que je vais faire? Je suis en train de marcher sur ces plates-bandes et alors, mais bon, comme je sais qu'il me laisserait faire, alors je vais le consulter. Je vais consulter, alors que je sais très bien qu'il va être d'accord. Pourquoi il faut le consulter puisqu'il va être d'accord?
Bah, est-ce qu'il consulte ou est-ce qu'il informe?
C'est une information, mais le Midrash, il dit, Venim lachbo. Le Midrash, il dit, en fait, il a pris conseil d'Abraham, donc il a demandé son. Il a consulté Abraham, en fait.
La question c'est pourquoi c'est dit sous forme de machin?
Oui, pourquoi tu passes par un machal pour dire des choses? Donc, est-ce que ça ne pouvait pas être dit directement?
Si c'était dit directement, ça se dit que par exemple, Hachem alla consulter sans passer par l'idée d'un roi, c'est ça.
Non, non, non.
Est-ce que c'est
Non,
direct?
non, directement. Ça veut dire que c'est pas c'est pas le. C'est Akadosh Baruch qui a décidé, ce qui est la vérité d'ailleurs. Le problème, c'est Hachem a décidé de détruire ces villes. Et il se demande, mais est-ce que vraiment je peux le faire sans demander à Abraham, sans consulter Abraham?
Donc ça serait la forme directe sans passer par un
Oui,
machin.
sans passer par un machal, est-ce que je peux le faire? Mais il y a
Yeah.
aussi cette idée que du point de vue d'Hachem, les arbres, ils sont, comme j'ai dit, ils sont stériles. Mais en vérité, ce qui n'est pas dit, c'est Khamisha Krachim Alalu. Ces cinq villes-là, ils sont pourris. C'est pas des arbres qui sont stériles. Ils sont pourris et ils pourrissent le monde.
Mais l'ami du roi, il n'a jamais dit qu'il voulait détruire les arbres, lui. C'est Hachem qui
Bien sûr.
l'amenait à.
Oui,
Enfin,
mais bien sûr, mais Avraham non plus, il n'a jamais dit ça.
oui, mais c'est ça qui est bizarre.
Pourquoi c'est bizarre?
Parce que donc là, on a une mise en scène pour que
j'allais dire la décision, la bascule du côté d'Abraham.
Et alors?
Bah, c'était peut-être ça qui
Là
était
aussi,
difficile à
c'est la
dire.
même chose. Est-ce que je vais consulter le... voilà, est-ce que... Le roi, il dit, si je lui avais demandé si c'était son patrimoine, il aurait été d'accord. Ici, la même chose, les mêmes mots. Il ou patricon, chez l'or, a été mvakesh, il m'en aurait pas empêché. C'est les mêmes mots.
Mais il faut que le jugement d'Hachem passe du côté d'Abraham. Qu'il soit d'accord, ça veut dire qu'il prenne le relais de la parole d'Hachem, de son
Mais en
jugement.
fait, quand on dit qu'il l'a consulté, c'est dit sur Hachem, pas sur le roi, quoi. La parabole, elle n'est pas allée jusqu'au bout. La parabole, elle dit seulement, il n'aurait pas empêché. Et donc, je peux le consulter. Dans la même chose. Je sais qu'Abraham ne m'en empêcherait pas. Si c'était son patrimoine, mais ça n'est pas son patrimoine. Qu'est-ce qui dérange ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire? Qu'est-ce que...
Pourquoi une question n'a pas pu dire? Parce que généralement, quand on parle à ma chaîne, c'est pour dire qu'il a... Qu'est-ce qu'on n'a pas
Oui,
pu
qu'est-ce qu'on
dire?
n'a pas pu dire, qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu dire sur Hachem? On a dit, oui. C'est toujours comme ça. Mais ici, c'est compliqué.
Je crois qu'on en revient toujours à la même question. Est-ce que l'homme, il a vraiment une action dans le monde ou il n'en a pas? Ou alors on veut lui faire croire qu'il en a? Enfin, je redis un peu, parce que ça tourne autour de cela en définitive. On me
Non, mais
consulte.
ici, je ne vois pas que ce soit ça. Parce que la question, ce n'est pas que l'homme s'imagine quoi que ce soit. Là-dedans, il est consulté. Il faut le consulter. Alors, mais le problème, c'est qu'Hachem le consulte,
C'est peut-être aussi dans la façon.
alors qu'il sait très bien qu'il est d'accord. Puisque même si c'était son patrimoine, il serait d'accord. À plus forte raison maintenant que c'est pas son patrimoine.
Mais le machin, il arrive. Ça
Pardon, il quoi?
arrive plus tard, le machin. C'est-à-dire la différence avec le roi qui avait trois favoris.
Non, non, non. Ça,
C'est
vous
après.
êtes trop loin.
C'est
Vous
trop
êtes
loin
trop loin.
avec
On n'a pas encore touché les trois favoris. On
C'est
est
ça.
dans le coup d'avant. Moi, j'en ai parlé la dernière fois, peut-être, mais
Ah.
pas.
C'est moi qui
Non,
parle.
non, on n'a pas parlé.
Non, non, on n'est pas. Je suis encore sur le premier, machin.
Peut-être parce que le machin est à notre portée, quelque chose qui on pourrait, bon, je sais pas, difficilement comprendre dans la relation d'Hachem directement.
Si vous voulez, à partir du moment où Hachem a donné cette terre à Abraham, et que maintenant il intervient sur cette terre, c'est comme s'il annulait en quelque sorte, d'une certaine manière, le don qu'il lui a fait.
Après ça,
Après. Tout est récent, mais quand tu as donné, c'est comme on a dit, donner ses données, normalement, il ne devrait pas s'en mêler. Mais il y a une situation ici qui est assez étrange, c'est qu'il dit, voilà, moi je vais le faire, mais il faut que je le consulte. Pourquoi il faut qu'il le consulte? Parce que s'il ne le consulte pas du tout, c'est comme s'il n'y avait plus de l'alliance qu'il a faite avec Abraham, elle n'existe plus. Je passe par-dessus lui, donc c'était de la blague, parce qu'on a toute l'alliance qu'on a faite. Et donc il faut dire que le roi, lui, il met l'accent sur le fait que il y a justement cette caractéristique de cette terre d'Israël. La terre qui est donnée à Abraham, c'est que ça ne devient pas ton patrimoine. C'est ça le gros morceau. Ça ne devient pas son patrimoine.
Pas la terre
La
d'Abraham.
terre, c'est une terre qui nous est donnée, mais dans laquelle on n'aura jamais la position du propriétaire terrien au sens habituel du terme. D'accord? Ça veut dire que c'est une terre qui nous est donnée, mais elle peut nous vomir. Et elle nous a vomi déjà. C'est une terre qui nous est donnée avec plein de conditions. Alors que quand il l'a donnée à Abraham, il n'a pas parlé de ses conditions. C'est comme Ouais, c'est-à-dire. Ça a l'air comme si, ça ne l'est pas, mais ça a l'air comme s'il revenait en arrière. Et donc, on le montre sur le roi. Le roi, voilà, il dit, moi je l'ai donné, mais le roi reste propriétaire. Ça veut dire, il y a cette idée-là que quand on est le roi, même ce que le roi donne, c'est pas définitif, quoi. Ça ne devient pas ton patrimoine. Or, dans le monde, c'est pas comme ça que ça fonctionne. A priori, quand les rois donnaient des provinces à quelqu'un, la province, elle lui appartenait à ce quelqu'un. Il faisait ce qu'il voulait dans cette province. Mais après, on s'aperçoit que quand le roi fait la guerre ou des choses comme ça, il va quand même mobiliser la province en question aussi pour faire la guerre. Il va pas lui demander obligatoirement son avis. On voit très bien le roi de France, il y a eu des moments où il y a des provinces qu'il a données, mais après il fait la guerre quand même, avec ses provinces. Ça s'impose. Et c'est ça l'idée, c'est le dire sur le roi, on comprend. Dire sur le roi, c'est presque de l'injustice. Bon, il fait comme si, en fait, je lui ai donné, mais bon, je peux aussi ne pas tenir compte de lui. D'accord? Puisque vous avez parlé des trois qui viennent après, il y a trois favoris, mais le roi qui a envie de faire ce qu'il a envie de faire, eh ben, les fameux favoris, ils se retrouvent en taule, quoi. Bon, ça veut dire, t'es favori, mais tant que ça m'arrange. Quand ça m'arrange pas, favori que tu es, tu vas te trouver en taule. Bon, mais ça, on n'a pas encore vu, mais c'est pour ça que le deuxième machal est la suite du premier. Ou ici, on n'a pas vu aussi clairement ici que il y a une espèce d'abus de pouvoir du roi sur le sujet, sur le favori auquel il a donné quelque chose, et puis ensuite il vient se mêler de la gestion de ce qu'il lui a donné. Parce que sur le machal, on peut dire que c'est injuste et comment, etc. On peut être très critique sur la façon dont procède le roi. Alors après, on va dire, ben, Hachem, il fait aussi ça comme ça, mais on ne peut pas critiquer comme on peut critiquer sur le roi. Donc, il faut comprendre que, comme vous disiez, c'est du chesed, Ok, est-ce que c'est le chesed quand le roi faisait son abus de pouvoir? Ce n'était pas le chesed. Pourquoi vous allez dire ici que c'est le chesed?
Voilà. Parce qu'il y a quand même une étude. Donc, quand même, ça va plus loin, l'alliance entre Hachem et Abraham, entre un roi et
Oui,
son
mais
fils et un
en
favori.
quoi est-ce qu'elle va tellement plus loin dans la mesure où elle est contredite ici?
Parce
Voilà.
que
À la
peut-être que.
première occasion, elle est contredite.
Non, mais une alliance, c'est pas donner le pouvoir entièrement à quelqu'un.
Mais sur la terre, oui.
Apparemment.
L'alliance est, c'est une alliance, et dans l'alliance, je t'ai donné la terre. Quoi, t'es descendant? J'ai donné la terre.
Mais non, mais donner, mais l'alliance est perdue, même si je fais donner la
Mais
terre.
non, mais c'est une alliance qui a complètement changé de sens, puisque maintenant, sur la chose concrète que tu, la grande affaire que Hachem a donnée à Abraham dans cette affaire, c'est la terre. Et maintenant, il la lui prend, quoi, il lui prend. Ça veut dire, maintenant, il intervient sur cette terre et il se dit, bon, il faut quand même que je lui demande, mais en réalité, on utilise le fait qu'il serait d'accord. Il serait d'accord, il serait d'accord.
Est-ce
Je
que je peux dire
l'apprends.
quelque chose, Rav?
Oh,
Monsieur
tout le monde
Lupescu?
peut parler,
Je
pas moins que les autres.
me permets. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si cette terre devient un patrimoine, à ce moment-là, ça devient de l'idolâtrie. Parce que,
Oui, vous avez raison, ça, nous sommes d'accord.
c'est-à-dire qu'on rompt la relation avec Hachem. Et c'est extrêmement dangereux.
Non, vous avez parfaitement raison. Mais ça, disons, pour l'instant, on le voit pas encore ici, mais ici, on voit que ça n'est, l'accent, il est, c'est pas devenu ton patrimoine. D'accord? C'est, il faut comprendre cette histoire. C'est très, très grave, si vous voulez, parce que toutes les halakhot concernant notre relation avec la terre d'Israël sont gouvernées par cette idée. Tu n'en es pas le propriétaire au sens habituel du terme. Elle est à nous, la terre. Et c'est ce qu'Abraham a compris. Il a dit, OK, la terre, elle est à moi, mais je suis même d'accord de me conduire par rapport à cette terre comme si j'étais un étranger. Je suis d'accord pour payer pour une terre qui m'appartient. Il a payé le caveau. Et il l'a payé très cher. Alors que c'est à lui. Alors il va leur dire, OK, tout ce que je demande, c'est pouvoir faire ce que j'ai à faire. Si sur cette terre, je peux faire ce que j'ai à faire, que vous mettiez un drapeau machin ou un drapeau truc au-dessus de n'importe où sur ce territoire, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Parce que moi, cette terre, c'est un outil pour servir Hachem. C'est pas pour moi. Et à la limite, c'est une terre qui me crée des obligations. Et c'est un chesed, comme vous dites, parce qu'en vérité, d'une certaine manière, Avraham est un peu responsable de ce qui se passe sur cette terre. C'est à lui, alors il est responsable. Il y a des injustices flagrantes qui se font là-dessus. Comment il laisse faire? Il était responsable, alors.
Peut-être que
Quelle modalité d'intervention?
peut-être un temps plus long,
Bon, on voit très bien qu'Akadosh Baruch Hou dit qu'on ne peut pas attendre plus. Si Hachem vient, c'est terminé. Il faut le terminer parce qu'on ne peut pas vivre avec ça.
il y a l'homme qui s'est avancé vers la zone, la femme, à la zone, c'est pas aventureux.
Avraham, il a pensé que dans Sdom, de l'intérieur, on ne peut pas. Peut-être que de l'extérieur, on peut prendre des gens qui ne sont pas complètement endoctrinés, mais qui apportent quelque chose en tant qu'apporteurs, qu'ils amènent, je ne sais pas, de l'énergie à Sdom ou du business, etc. On va dire, bon, vous voulez faire du commerce avec nous? Ben, il faut peut-être que vous arrêtiez de vous conduire de cette manière-là. Personne ne l'a fait. Mais on pouvait espérer quelque chose. Mais aller dans Sdom et penser qu'on arrivera à retourner Sdom de l'intérieur, c'est ce que Lot a pensé. Et le jour où il a pensé qu'il était arrivé, c'est le jour où il a dit, mais tu n'as rien compris du tout. Nous, tout ce qu'on veut, c'est te mouiller pour que tu arrêtes de nous casser les pieds avec tes valeurs. Maintenant, tu vas juger en tant que juge de Sdom. Et tu vas faire des tels. Tu vas prendre des jugements sodoméens, je ne sais pas comment il faut dire. Et après, tu ne pourras plus parler parce que tu l'auras fait aussi. C'est ce qu'ils lui ont dit. Il était un ras-de-bol-à-gour. Un type, il arrive ici, tout à coup, tu crois que tu vas changer la législation de Sodome. Mais il y croyait. Il a cru ça. Alors, je crois que c'est ça la raison pour laquelle on a passé par ce machal, parce que on peut critiquer jusqu'au bout cette démarche. Après, il faut essayer de comprendre pourquoi Hachem procède de cette manière-là. Pourquoi il donne, il aurait pu le dire, je vous loue cette terre, sous condition, etc. Il dit pas, il dit, je te donne la terre, elle est à ta descendance. La donne. Mais après l'avoir donné, tout à coup, le statut change. Et là, il se substitue à Abraham. Alors on peut aller jusqu'à dire, comme disait Bernard, que c'est du chesed. En vérité, Abraham aurait peut-être une certaine manière dû le faire. Il n'a peut-être pas la force de le faire aujourd'hui, etc. Donc, comme Hachem ne veut pas laisser prospérer sur le territoire d'Abraham des conduites comme celle-là, alors il va intervenir pour éradiquer ça. C'est en ça que c'est du chesed. Il fait pour Abraham, pour que la terre soit une bonne terre.
Mais moi, je que chacun son rôle. Alors, je sais que il a donné la terre. Oui, mais Abraham, il n'a pas la même. Alors, je l'ai dit, mais Hachem, il dit non, ça, on a tout le temps. Lui, il le dit de son point de vue, mais Abraham, c'est pas qu'il a tout le temps.
Justement, c'est parce qu'il le sait pas et qu'il se rend pas compte que si les choses se développent de cette manière, qu'on laisse du temps, ça devient du Hametz avec le temps. Le problème du temps, c'est le problème du Hametz. Le problème du Hametz, c'est le problème du temps. Il y a des temps où tu peux pas laisser les choses. Et par exemple, le fait que nous ne soyons pas entrés en Eretz Israël tout de suite, et qu'on est rentré 40 ans plus tard, ça a complètement changé. La terre, elle était imbibée d'idolâtrie, etc., au point qu'on pouvait pas. La Torah n'était plus la Torah de ces gens qui s'étaient affaiblis aussi dans le désert et tout. Ils n'étaient pas capables de s'imposer si on laissait les idolâtres prospérer. En théorie, on devrait se demander pourquoi ils n'ont pas confiance que la Torah est plus forte que l'idolâtrie. On s'en occupe pas et on va montrer qu'on fait une société qui est beaucoup meilleure que celle des idolâtres et ils vont venir chez nous. Si on leur montre. Pourquoi on a tellement peur qu'il faut tous les, il faut les chasser, les éradiquer, ou éradiquer les quelques-uns là. On peut pas les laisser vivre. Pourquoi c'est eux qui vont décider? Nous, on vient avec la Torah. Pourquoi pas? On a besoin d'avoir peur, en quelque sorte. On n'a pas confiance dans la Torah. OK, on ne va pas les changer du jour au lendemain. Mais ils ne vont pas nous influencer.
C'est comme si je donne la terre, mais je te donne la terre, mais tu ne fais pas ce qu'il faut. Je te donne la terre, mais tu ne fais pas ce qu'il faut.
Là, peut-être Tu n'as peut-être pas encore les moyens, c'est pour ça que tu n'as pas vraiment complètement les moyens, alors je vais t'aider. Ok, on va continuer un peu. Alors, Amar Rabbi Yehuda Bar Simon, le Meller, c'est-à-dire, c'est un nouveau machal. Le Meller Shayulosh, le chat Ohavim. C'est un roi, lui il en a plus, il a trois favoris. Velo Il ne faisait jamais rien sans les consulter. D'accord? Ici, on est dans un passouk qui dit, Hachem dit, je suis en train d'aller faire quelque chose sans consulter Avraham, mais comment est-ce possible? Avraham va devenir un grand peuple, etc. Je suis obligé d'aller le consulter. Donc, je vais le consulter. Et bon, pourquoi pas? Pourquoi je ne le consulterai pas? Mais c'est impossible, c'est important de lui donner enfin, de l'importance en le consultant et en lui faisant jouer un rôle. Mais ça veut dire il faut que il se rende compte qu'on est obligé de fonctionner avec cette sévérité à l'égard de Sdom, d'accord? Parce qu'il y a il y a même pas dix tzadikim et en plus ces tzadikim même s'il y en a ben ces tzadikim ils n'ont pas fait bouger la ville. Alors celui-là il en a trois et lui il est il a des, il les consulte. Il consulte ses favoris. Pamachat, et un jour, il a voulu faire quelque chose. Koutsmidatan. Il voulait agir sans leur demander leur avis. Alors la question qui se pose, c'est, OK, pourquoi est-ce qu'il, à quel titre il doit leur demander leur avis? Ils sont des favoris, donc les favoris du roi, c'est une démarche du roi. C'est pas des gens qui ont obligatoirement construit la relation. C'est le roi qui veut bien les favoriser. Et là, à un moment donné, il peut faire quelque chose et il n'a pas envie de les consulter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas, visiblement, il ne veut pas faire les choses sans les consulter, mais qu'eux soient là et voir qu'ils ne les consultent pas. Donc il se fait Natal Tarishon, Utrado, Votsio Chutz, la Palatine. Il a pris le premier. Il l'a chassé, il l'a expulsé du palais. Chéni, le deuxième, Ravacho, Bebeta Asurim, il l'a mis en prison. Venatan, Spargin, Shelo, Alav. Et il a scellé les portes de la prison pour qu'on ne puisse pas vraiment l'ouvrir. Shlishi, le troisième, Shaya Chaviv, Alav, Yoter, Midai. Il y avait un troisième qui était cher, mais là, pour le coup, on pourrait dire il était trop cher. Il lui était trop cher. Termidai. Amar, Eniose davar chutzmidato. Lui, je ne peux pas faire quelque chose sans le consulter. Bien que le texte commence par dire il a envie de faire quelque chose sans consulter personne. Quand il s'agissait de d'agir contre le troisième, non, je ne peux pas ne pas le consulter. Car, alors maintenant, de quoi on parle? Évidemment, c'est Hachem. Et les fameux favoris d'Hachem, c'est Adam. Donc, qu'est-ce qu'il a fait avec Adam Arishon? Vaigaresh et Adam. Il a chassé Adam, sous-entendu, il l'a chassé du Gan Eden. Terminé. Noach, Vaïsgo, Hachem Baado. Il l'a enfermé dans l'arche. Le troisième favori, c'est Abraham. Shaya Chaviv Alav Yoter Midai. Là aussi, Abraham s'est répété, c'est le troisième qui était vraiment trop favori. Il lui était trop cher. Amar Ma Niose Davar Chutzmidato. Comment je peux faire les choses sans le consulter?
Trop cher. C'est pas vous dites trop cher, là, il y a...
C'est marqué Yoter Midai. Yoter Midai, ça veut dire trop. Dai, ça veut dire suffisant. Yoter midai, c'est plus que suffisant. Plus c'est.
Ça induit un peu comme quelque chose d'un peu irrationnel.
Oui, c'est ça.
Donc,
C'est quelque chose qui, quand on dit yoter midai, ça veut dire que, à vue humaine, c'est trop. C'est trop cette relation entre Hachem et Abraham. Il y a un trop dedans. On verra ce qu'on peut en faire, mais. Il s'est marqué clairement deux fois dans le Midrash que c'est trop. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Machal le Melech Shayalo, alors, c'est autre chose, de nouveau encore un troisième Machal. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce deuxième Machal? Comme je vous ai dit, on a l'impression que là, du coup, on est allé de l'autre côté. Et non, il a des gens qui sont ses favoris et il a décidé qu'il faisait rien sans les consulter. Jamais rien sans les consulter. Et un beau jour, il a envie de faire quelque chose sans les consulter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Visiblement, il ne peut pas se contenter de faire. T'es le roi, fais le roi, fais ce que tu veux faire, sans les consulter. Pour ne pas les consulter, il faut qu'il les fasse disparaître. Adam fait disparaître du Gan Eden, et Noé, il l'enferme dans son arche. Et comme ça, ils ne sont pas là. Et là, maintenant, il peut faire ce qu'il a envie. Le problème, c'est qu'il y a un troisième favori. Et par rapport à ce troisième favori-là, même s'il avait envie de faire quelque chose sans consulter personne, celui-là, il peut pas. Il n'y arrive pas. Alors, c'est trop parce que. Pourquoi c'est trop? Parce qu'il n'est plus roi, alors. S'il ne peut pas faire quelque chose sans consulter, ben où elle est sa royauté? Le roi, c'est celui qui fait ce qu'il veut. Et là, visiblement, il s'est mis dans un état où il ne peut faire, il peut pas faire ce qu'il veut. Il voudrait agir sans consulter, mais pourquoi il ne met pas Abraham en prison? Pas le mettre en prison. Voilà. Il ne peut pas. Il est trop cher. Celui-là, je ne peux pas. Adam, je peux. Noir, je peux. Abraham, non.
Pour Adam, qu'est-ce qui peut se cacher à Adam Arshon?
Pardon?
Pour Adam Arshon, qu'est-ce qui peut se cacher au sein de celui caché qui ne peut pas le lire?
On ne nous a pas dit si. On ne sait pas du tout. À la limite, ça, visiblement, ça n'a pas l'air d'être important. Ce qui est important, c'est la relation entre Hachem et les hommes. La relation entre Hachem et l'être, l'Adam Arishon, l'être qu'il a créé de toutes pièces, quoi, si on peut parler comme ça. La relation d'Hachem avec ce premier homme dans la deuxième version, version post-diluvienne. Tous ces gens qui, ces deux-là qui sont au début de quelque chose, je vais agir maintenant, sans des gens qui sont au début de quelque chose que moi j'ai fait, en fait. Adam Harishon, il est au début, mais c'est pas qu'il, il s'est pas construit au début. Il a été fabriqué au début. Noé, il s'est pas construit au début. On dit même, s'il a été sauvé, c'est par Chesed, justement. Il a trouvé grâce. Ça veut dire, comme disent Chazal, il y en avait d'autres, mais lui, il a trouvé grâce. Il a trouvé grâce, ça veut dire sans raison. Et puis après, il y a Abraham, qui lui est un favori, mais il est un favori d'un autre type. Parce que lui, il est un favori qui s'est construit. Il est devenu un favori parce que lui, il a donné quelque chose à Hachem. Il est le premier à avoir reconnu Hachem comme Melech, comme Adon. Personne n'avait jamais dit à Hachem qu'il était le maître. Personne ne l'avait jamais reconnu. Peut-être les autres sentaient bien qu'il était le maître, mais ils ne l'avaient jamais reconnu comme tel.
Noah, la personne.
Non. Et lui, c'est quelqu'un qui a une entière confiance en Hachem. Noach, par exemple, et la Chazal disent que Noach, il est entré dans l'arche que quand il a commencé à pleuvoir. Alors qu'Hachem lui avait donné l'ordre d'entrer dans l'arche avant. Les Chazal disent, ou Miktane Amana. Il est un peu faiblard dans la confiance en Hachem. Et la confiance, mais pas complètement. Celui qui a vraiment confiance en Hachem, c'est Abraham. Alors du coup, ça fait comme si le fait que, bon, il est un favori, mais il lui est trop cher parce qu'il lui a donné quelque chose qui est en réalité ce pourquoi Hachem a créé le monde pour ça. Bon, ce que nous en disons, quoi. Nous disons que Hachem a créé le monde pour être reconnu comme le roi. Et qui est-ce qu'il a reconnu? Abraham.
On comprend ça aussi, pourquoi c'est un roi avec des favoris, ça pourrait être un père avec des enfants, avec des fils. Et en même temps, si c'était des fils,
Ah bon, alors il les a
ça
fait, c'est
serait.
autre chose. Bon.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la... on dit qu'il est au-delà de toute mesure. Avec un enfant même avec qui on a en tant que père une relation pas forcément aussi bonne qu'avec un autre, l'amour il est là de toute façon. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a vraiment, on peut les séparer des deux autres.
Mais le problème, si vous voulez, c'est que ses favoris qu'il a mis en tôle ou qu'il a mis dans sa bulle, enfin dans son arche, ils n'ont rien fait de mal. On ne dit pas ils sont pas du tout présentés comme des gens qui se sont disqualifiés. Ils n'ont pas démérité. Ils ont des problèmes. Mais ici, en tout cas, c'est pas du tout présenté comme ça. C'est présenté que Hachem avait envie de faire quelque chose sans leur demander leur avis.
Parce qu'ils savaient leur avis. Si je ne demande pas l'avis de quelqu'un, c'est que je me doute que son avis n'est pas très pertinent.
Alors bon, on va voir justement, le Midrash, lui, il n'est pas entré là-dedans. D'accord? Il dit presque rien, le Midrash, ici. Et là, du coup, il n'a pas dit car Hachem, etc.
Mais je m'excuse, Rav, mais je suis un petit peu étonné par cette conception parce que vous-même, vous nous avez dit à plusieurs reprises que apporter quelque chose à Hachem, c'est Hachem en fait qui nous permet de croire que nous apportons quelque chose lorsque nous faisons des mitzvot. En définitive, les dés sont un petit peu pipés. Alors que là, ici, a priori, on est en train de dire que oui, ben là c'est vraiment, il peut pas se passer de le consulter parce que il y a une relation particulière sur ce troisième conseiller qui ferait que il lui a apporté vraiment quelque chose, quoi.
Non, mais on peut toujours dire ce que vous venez de dire. C'est que, bien entendu, que Abraham, il lui a apporté quelque chose. Pour qu'il puisse lui apporter quelque chose, il fallait qu'Hachem lui donne la vie d'abord. Non seulement qu'il la lui donne une fois, mais qu'il la lui donne à tout instant. Donc évidemment, quand on parle de il a donné quelque chose, ça veut dire, voilà, il y a une donnée, c'est donné. Il lui a donné la vie, etc. C'est sûr, mais on n'a pas besoin de le répéter à chaque fois que, effectivement, tout ce qu'on fait, c'est uniquement parce qu'Hachem nous permet de le faire. Mais on a déjà vu, déjà dans d'autres shiurim, qu'il y a une situation où Hachem dit, si vous faites les mitzvot, je considérerai que c'est comme si vous vous étiez fabriqué vous-même. Ben, si t'aimes Atem, et le Atem, il est, parce que c'est marqué Otam, sans le vav, alors on lit Atem. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois.
Mais même s'il permet, ce n'est pas pour autant qu'on va le faire. C'est-à-dire qu'il y a un livre, ce n'est pas parce qu'il lui donne la possibilité de le faire qu'il peut croire que. Enfin, je veux dire, il y a Abraham, il y a quand même un livre qui l'a fait, puisqu'il l'a fait.
Oui, bien sûr, mais on peut pas. C'est vrai qu'il l'a fait ce qu'il l'a fait, mais c'est uniquement parce que parce qu'au départ, il y a toujours. On est toujours en dette par rapport à Hachem. D'accord? Rien ne commence avant qu'Hachem nous ait donné quelque chose.
Bien sûr.
OK.
Au départ,
Et
mais
alors,
après,
disons qu'on n'en parle pas. Mais dans la tête, on le sait. On sait ce que je réponds. À Ilan, il a raison, bien sûr, mais on le sait, on n'en va pas en reparler tout le temps. Et ce n'est pas que Hachem, c'est de l'anthropomorphisme, tout ce que je vous raconte. On dit qu'Hachem, il l'a aimé trop, qu'est-ce que ça veut dire? Vous imaginez qu'Hachem a aimé quelqu'un trop, c'est bien sûr que non. Mais pour qu'on comprenne un peu la Hanaga, qu'est-ce qui se joue un peu? Alors on prend ces anthropomorphismes à tout sans arrêt. Et justement, toutes ces paraboles, ben, c'est quasiment une façon de dire, écoute, on va prendre des anthropomorphismes, mais ne te trompe pas, ce sont des images, il n'y a pas du tout de réalité. Il faut bien que je parle d'une manière que soit audible pour les êtres humains que nous sommes. Donc, Mani osé davar chutzmidato, comment pourrais-je faire en dehors du date, du discernement, de la compréhension d'Avraham Avinu? Et donc ça vient nous illustrer en fait cette situation, d'accord, ce midrash qui vient dire ici que Hachem intervient dans l'histoire et pour la première fois, il intervient, mais il demande son avis aux hommes. Il est intervenu dans l'histoire. À la tour de Babel, il est intervenu de façon un peu directe. Il a demandé son avis à personne. Il n'a rien demandé à personne. Là, pour la première fois, il intervient et cette alliance, elle joue là maintenant. Voilà, il le fait jouer un rôle dans l'alliance, quoi. Puisqu'on est deux, alors voilà, je vais te consulter. Même si en fait, j'ai pas besoin de. Mais le problème, c'est que c'est quoi ce qui est dit avant? C'est dit qu'Hachem n'a jamais rien fait sans demander à Adam et à Noé. Ou est-ce qu'on voit qu'il leur a demandé quoi que ce soit? Il dit jusque-là, il n'avait jamais rien fait sans leur demander à ses favoris. Mais faux, Shaalotam. Il n'a jamais rien demandé.
peut-être pas parle aujourd'hui de questions importantes,
Ah non?
peut-être qu'on parle du sujet de l'émission.
Enfin bon, le savoir si on va détruire le monde ou pas, c'est une question assez importante. Savoir comment on va organiser le monde au départ, qu'est-ce qu'il faut faire avec quelqu'un qui a fauté, c'est toi-même, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Que tu t'es. On ne voit pas du tout qu'il ait jamais atteint. Il n'a jamais rien demandé à personne.
Par exemple, pour Adam Mitchell, c'est l'homme qui désigne le nom des animaux.
Ah non, qu'il est.
Qui désigne le nom des animaux.
Oui, mais il a jamais demandé est-ce que je vais détruire le monde ou est-ce que je vais te chasser ou etc.
Est-ce que donner une mitzvah, c'est pas consulter, mais c'est rentrer en relation?
Alors, c'est entrer en relation, mais c'est une relation de me savez à me sauver. Mais c'est pas consulter. Là, on dit qu'il a jamais fait sans les consulter. Ce que ça
Sans les
veut.
laisser,
Pardon?
sans les laisser. C'est comme s'il y avait une appréciation, un test, un test, un rôle qu'ils n'ont pas joué à l'endroit où ils ça joue, et que l'amour qu'il a pour Abraham, c'est évidemment parce que ça va au-delà de ce que peut-être du rôle qui est peut-être le sien. Mais c'est vrai que ça ne dit pas pour autant qu'il les a consultés.
Peut-être qu'on peut considérer que la consultation, ici, c'était une façon de les mettre dans des situations sans leur demander leur avis. C'est-à-dire, Hachem, il n'a pas demandé à Noé, est-ce que tu es d'accord d'aller dans l'arche? Est-ce que il lui a dit, construis une arche et tu iras dans l'arche. Il n'a pas demandé son avis. Mais en fait, en réalité, Noir aurait pu dire non. Et ça peut être considéré comme une. Faire des. Peut-être ce qu'on veut, c'est seulement négatif. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu un moment où ils auraient pu donner leur avis et on ne leur a pas demandé. Donc c'est ça, il n'a jamais fait sans leur demander quelque chose où effectivement leur avis aurait pu être. Bon, ça faisait partie du jeu du monde. Que Adam joue soit sollicité par le Nahash, que Noach on lui dise de construire et qu'il prend pas l'initiative de dire à toute sa génération de vraiment faire tshuva, etc., ou de prier pour qu'il fasse tshuva, etc. Peut-être que ça, c'est ça qu'on appelle, il les a pas consultés. Il les a consultés, pardon. Dans tous les domaines. Et là, maintenant, il veut faire quelque chose sans consulter. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire sans consulter? A priori, il veut consulter personne. C'est quoi? C'est détruire cet homme. Il va détruire cet homme. Et ça, a priori, c'est parti pour ne consulter personne. Il a nommé un ange qui a la charge d'aller détruire cet homme. Et puis tout à coup, il se dit, à me chasser, est-ce que je peux vraiment me permettre de ne pas le consulter? Est-ce que c'est vraiment bien de ne pas le consulter? Il dit, maintenant, je ne peux pas ne pas le consulter parce que, en fait, parce qu'il va jouer un rôle très important dans la suite.
Moi, je me dis que vous avez dit la façon dont vous avez expliqué qu'est-ce que c'est consulter pour Adam et Marc.
Consulter, ça veut dire que c'est pas qu'il les a consultés positivement, mais il les a jamais pas consultés. C'est-à-dire, il n'a jamais fait quelque chose où ils auraient pu dire quelque chose et on leur a pas demandé leur avis. C'est des situations dans lesquelles il n'y avait rien à dire parce que ça fait partie des briques du monde quelque part. C'était la construction du monde. C'était comment est-ce qu'ils allaient, eux, réagir à des éléments fondamentaux. C'est fondamental de se confronter avec le mal C'était fondamental de comprendre que il fallait le monde avait raté, quoi, il fallait tout recommencer. Et que eux, ils auraient peut-être dû prendre des responsabilités. En tout cas, de Noir à Noir, on dit que on lui reproche de ne pas avoir prié pour sauver sa génération. S'est pas senti responsable de la génération. De même que Adam, c'est pas terrible, je veux dire, c'est pas moi, monsieur, c'est elle. C'est pas terrible, ouais, comme réponse. Alors il dit, mais non, non, Abraham, je peux pas ne pas le consulter. C'est trop peut-être de le consulter pour cela, mais peut-être que le rôle qu'Hachem donne au clan d'Israël, c'est peut-être un peu trop. Peut-être c'est ça, c'est Yoter Midaï. Parce qu'il nous donne une responsabilité énorme, vers Israël. On a dit, y a un Gemara dans, terminé, dans Avodah Zara, il y a un Gemara qui dit que les bnés Israël, ils sont aussi nécessaires au monde que les Arba Ruchot. Que les vents qui viennent de toutes les quatre directions cardinales. Oh, les vents amènent toutes sortes de choses, il y a toute une circulation des vents, c'est fondamental dans le monde. Alors, tout le monde demande qu'est-ce que c'est quoi le lien entre le clan d'Israël et les vents, quoi. Alors, j'avais entendu qu'il y a un Rebbe Hassidique qui a dit que le lien entre les Bnei Israël et le vent, et les vents du monde, c'est en fait le vent qui est produit par les Bnei Israël quand ils se balancent, quand ils étudient ou quand ils prient. C'est-à-dire, ce Rebbe, il a inventé l'effet papillon. Alors, j'ai parlé avec. En fait, c'est évident. J'ai parlé avec mon fils Moshe. Moshe a dit, mais ça, c'est chassidique. Mais là, le pshat, c'est quoi? C'est le loulav. Rashi dit, qu'est-ce que c'est que mouvement? Ces mouvements qu'on fait avec le loulav, c'est choisir les bons vents et les bonnes pluies et chasser les mauvais vents et les mauvaises pluies. C'est ça. Donc la Torah, elle a prescrit, d'accord, dans les nanoïm qu'on fait avec le loulav, elle a prescrit l'effet papillon. Les vents du monde sont fondamentaux, les Bnei Israël sont responsables de tout, y compris de ces vents. Comment ils résolvent le problème à Sukkot, où la météo est décidée, parce que la location d'eau est décidée à Soukhot. On est jugé sur l'eau à Soukhot. C'est pour ça que toutes les mitzvot sont avec l'eau. Eh bien, on fait ce qu'il faut pour que les vents qui amènent et les pluies, effectivement, soient mis en marche. Comment? Ben, voilà. Chacun, les Bnei Israël, font ses gestes. Donc, ça veut dire, on est responsable de tout. On est responsable de la météo. Bon, vous me direz, ça, c'est la parano juive, mais. Et on est responsable. Écrit. On a cette mitzvah des Nanoui, mais Rachid dit, c'est ça le pshat. On est responsable de tout. Comment on peut être responsable de tout? C'est trop, non? C'est Yoter Midaï. Bon. Et non, Akadosh Baruch Hu a décidé que c'est l'œil Yoter Midaï. On peut le faire. Parce qu'on ne te demande pas de faire souffler les vents. Te demande de faire quelque chose qui va entraîner les vents et les pluies. OK. Voilà, on s'arrêtait là. Alors, il n'y aura pas de...